Brestoise, premier week-end de la saison où il n'y a pas de défaite du Stade Brestois, et ça c'est quand même une bonne nouvelle. Bienvenue pour ce 46e épisode de Brest On Air, où comme d'habitude je suis rejoint par Yann et Fanch, hein, évidemment les tauliers de ce podcast. Fanch qui était très incertain jusqu'au dernier moment, mais finalement il peut tenir sa place pour votre plus grand plaisir. Comment vas-tu Fanch?
Ben, ça va très bien, non covidé, hein, ce n'est pas pour ça que je suis incertain, mais tout va très bien, bonjour à tous.
Comment s'est passée la rentrée? Est-ce que tu as déjà vu s'il y avait des petits agendas, des cahiers Stade Brestois dans ta classe?
Absolument, alors il y a de l'agenda Stade Brestois, il y a du masque Stade Brestois en masque, puisque comme vous n'êtes pas sans savoir que le masque est obligatoire pour les professeurs et pour les élèves, donc les masques Stade Brestois, il y en a certains. Donc je n'ai pas manqué de les féliciter et
encourager peut-être.
De les encourager, voilà, à continuer là-dedans. Donc il y a de l'agenda Stade Brestois, de la trousse Stade Brestois également. Et évidemment, il y a du maillot Stade Brestois. J'en ai déjà vu deux ou trois depuis le début de, j'allais dire depuis le début de la saison, mais depuis le début de l'année scolaire. Donc voilà. Bon, il y a malheureusement toujours des joggings de l'OM et de l'Atlético Madrid et de Chelsea. Mais le Stade Brestois est quand même assez représenté et ça c'est bien.
Et de son côté, Yann, qui n'est pas dans sa salle de classe parce qu'il n'est pas encore re-rentré en classe, comment vas-tu, Yann?
Et non, toujours pas de rentrée, toujours pas de victoire. Tu me diras, hein, peut-être que quand je reviendrai en cours, ça ira mieux.
Alors, un gros programme pour ce 46e épisode de ce podcast, puisque donc la semaine dernière, on était tous un peu occupés par nos activités diverses et variées, notamment toi, Fanch, et moi de mon côté. Donc, on n'a pas réussi à se rassembler pour trouver un créneau pour enregistrer ce 46e épisode. Donc, on va revenir sur la victoire, pas du tout, on ne pourra pas encore dire ça pour l'instant cette saison. On va revenir sur la défaite, donc la deuxième défaite en deux matchs contre l'OM, c'était donc il y a 10 jours maintenant, le dimanche soir à 21h en prime time. On reviendra également sur les news sur les anciens Brestois et autres chroniques habituelles, hein, qu'on vous a habitué depuis maintenant plus d'un an. Et on parlera du match à venir contre Dijon avec évidemment quelqu'un du Dijon Show, nos amis du Dijon Show qui avaient notamment publié une excellente interview d'Olivier Dalloglio il y a quelques semaines, juste avant le début de la saison. Donc premièrement, n'hésitez pas à aller voir, à aller lire cette interview sur Internet qu'ils ont publiée sur leur site Internet. Et deuxièmement, ils seront là avec nous pour parler du Dijon Football Côte d'Or, le prochain adversaire du Stade Brestois.
Oh, des regrets, des regrets, des regrets.
Alors oui, des regrets pour le Stade Brestois. Alors rapidement, pour vous remettre un peu dans le bain, je vais présenter les compositions d'équipe et le film de la rencontre. Alors Brest se présentait dans un 4-4-2 avec Larsonneur dans les buts, Pierre-Gabriel Duverne, Ball, Perrault en défense, Honora Diallo, Belkebla, Fèvre au milieu de terrain et Cardona et Charbonnier en pointe, puisque ça ressemblait plus à un 4-4-2 qu'à un 4-2-3-1. Et du côté de l'OM, c'était un 4-3-3 avec Mandanda dans les buts, Sakai, Balerdi, Chaitatsar, Amavi en défense, un milieu à 3 avec Camara, Strootman et Sanson, Thauvin à droite, Radonjić à gauche et Benedetto en pointe. Florian Thauvin ouvre le score à la 20e minute sur un tir un peu dévié par, grandement dévié par Romain Perrault. Chaitatsar marque le premier de ses deux buts à la 27e minute sur un coup franc où il apparaît esselé après quelques minutes de VAR alors que le but était largement valable. Il n'y avait pas vraiment besoin de quelques minutes pour le voir. Romain Fèvre réduit le score juste avant la mi-temps sur une belle frappe du gauche. Chaitatsar redonne la deux buts d'avance à l'OM à la 80e minute et Gaëtan Charbonnier marque le dernier but du match à la 89e minute, trop tard pour le Stade Brestois qui avait pourtant réalisé un plutôt bon match. C'est rassurant après le premier match à Nîmes où le club était passé totalement à côté de son sujet. Là, Brest a mis tous les ingrédients pour battre l'OM. Malheureusement, il a manqué ses derniers gestes et dans les deux surfaces, manquait de tranchant. Êtes-vous d'accord avec moi?
Si je puis commencer, alors moi j'étais au stade, donc j'ai peut-être pas forcément la même, euh, la même vision et la même analyse que vous, parce qu'on voit les choses différemment. Vous, vous avez pu profiter des ralentis, tandis que moi, en direct, non. Donc, j'ai peut-être des sensations un petit peu différentes. Et je rejoins, par contre, ce que tu as dit, Quentin, sur le manque de tranchant et le manque de réalisme dans les deux surfaces. Et ça, ça m'inquiète un petit peu, dans le sens où on a quand même eu beaucoup d'occasions de but, beaucoup d'occasions de marquer, et on en a mis deux, d'accord, mais on aurait pu en mettre davantage. Et surtout, j'ai l'impression qu'on a encaissé trois buts sur les trois incursions, quelque part, trois ou quatre incursions marseillaises. Et ça, en revanche, ça me fait un petit peu peur. Alors, je tempère mon propos en disant qu'effectivement, la défense était quand même très remaniée avec Ludovic Ball qui ne jouait pas à sa place. Donc, dans quelle mesure est-ce que ça peut expliquer le... D'ailleurs, il n'est pas forcément fautif Ball, mais on sentait du stade qu'il n'avait pas les repères. Et dès qu'il avait le ballon, les Marseillais le pressaient très vite et c'était un peu compliqué. Donc voilà, une composition défensive qui peut-être explique les errances derrière. Mais moi, je ne suis pas sorti du stade en étant forcément très rassuré, contrairement à vous.
Moi, je vais être un peu dans la lignée de Quentin et en fait me baser sur le parallèle avec Nîmes pour être effectivement rassuré. Au-delà de l'attitude et du fait de voir un peu plus d'envie, plus de talent dans la duel, c'est surtout dans les intentions. J'ai vraiment trouvé qu'un Stade Brestois, il y avait des grosses velléités offensives. Ça s'est vu, c'est un peu bête parce qu'ils n'ont pas forcément fait un très bon match, mais dans les courses de nos deux défenseurs centraux, avec beaucoup de courses très verticales, une grosse pression sur un bloc marseillais qui, on doit l'avouer, était venu plutôt pour défendre et ne semblait pas vraiment en jambes. Mais après, effectivement, je rejoins sur le manque de justesse technique pour finir, mais aussi sur emballer, parce qu'on parle beaucoup des derniers gestes. Et je trouve qu'on a eu aussi beaucoup de mal sur les premiers gestes. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de situations où peut-être qu'on voulait partir trop vite, peut-être qu'on allait un peu de tête dans le guidon, et des actions qui n'ont même pas eu le temps de démarrer, qu'elles étaient déjà finies. Après, bien sûr, il y a tous celles qui étaient plutôt bien développées, et qui derrière n'ont pas pu être finies par un manque de qualité dans le dernier geste, que ce soit la dernière passe ou le dernier tir. Mais les intentions étaient là. Après, j'ai surtout apprécié ce qui a été au final notre gros point faible sur la première journée, c'est le jeu, c'est-à-dire le jeu sur les côtés. Marseille nous y attendait. Évidemment, c'est là-dedans qu'ils nous attendaient. Ils ont fait en sorte qu'on y aille. Mais on leur a mis la misère, quoi. Amavi et Sakai ont vraiment passé une très très mauvaise soirée. Et je pense qu'avec un joueur peut-être un peu plus, il irait peut-être plus les chercher en duel un contre un avec un Cardona notamment sur le côté, là aurait pu être un tout autre résultat.
Ce qui est un petit peu inquiétant, moi je trouve, c'est qu'il y avait quand même largement la place face à une équipe de Marseille qui n'avait pas joué depuis très longtemps, qui n'était pas en jambes comme tu dis. Et pour autant, on n'a jamais été, enfin moi ça m'a du stade, on n'a jamais été en mesure finalement de. On a eu un bon quart d'heure après la mi-temps, mais on n'a jamais été en mesure vraiment de renverser la rencontre. Et Marseille, finalement, nous a attendus. Marseille a fait le dos rond et sur sa seule occasion de la deuxième mi-temps, a planté le troisième but. C'est un petit peu frustrant pour l'équipe qui a essayé, hein, mais je trouve qu'on manque vraiment de qualité individuelle. Romain Fèvre en a montré certaines, mais sinon, que ce soit Franck Honora ou Cardona à ce poste tout seul devant, je ne suis absolument pas convaincu. Et le recrutement d'un attaquant, s'il se précise avec la personne de Mounier, si je ne dis pas de bêtises, pourrait faire le plus grand bien à l'équipe. Parce que Cardona, sur un côté, c'est là qu'il se montre, je trouve, le plus efficace, le plus tranchant et le plus dangereux surtout.
Un autre point sur lequel il faudrait travailler sur la semaine à venir, je pense que c'est quand même la gestion de nos temps faibles. Tu me diras, contre Nîmes, on n'a pas eu le moindre temps fort, mais contre Marseille, au final, au premier mi-temps, on prend deux buts sur leur seul temps fort, c'est-à-dire notre seul temps faible. Et assez gênant de pas savoir effectivement faire le dos rond. Est-ce que c'est un manque d'intelligence, pas de capacité de réduire la voilure, de mieux gérer? Peut-être aussi un manque de réussite, hein, ça peut arriver. Et c'est le point inquiétant au final que je ressors de ce match-là.
Et ce qui est aussi inquiétant, c'est que ça peut être aussi pour la confiance de l'équipe d'encaisser 6 buts en 2 rencontres. 7 buts, pardon, même d'ailleurs, j'avais oublié le 4e but nîmois. 7 buts en 2 rencontres, ça fait très mal et puis ça fait d'autant plus mal au moral qu'il compte dans le goal average. Et quand on est une équipe qui joue au maintien, commencer avec déjà une différence de but très négative, ça peut être également très pénalisant pour la suite. Alors qu'on n'est qu'en début de saison, bien sûr, on ne va pas non plus tirer la sonnette d'alarme tout de suite et crier au catastrophisme, mais il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de progrès à faire dans cette équipe brestoise, à mon avis, dans tous les secteurs du jeu. On a parlé de la défense, on a parlé de l'attaque, mais même au milieu de terrain, je n'ai pas forcément été convaincu que par la perte notamment Diallo Belkebla, que j'ai trouvé plutôt emprunté et souvent à contre-temps dans la récupération du ballon, alors que c'était à eux d'agresser le milieu de terrain marseillais. Ce qu'ils ont pu bien faire à des moments, en début de seconde période notamment, mais pas sur la, ils n'ont pas tenu la consistance d'un match entier en fait.
Je te rejoins un peu sur l'analyse du milieu, plutôt sur leur implication offensive. C'est notamment Belkebloc qui se contentait un peu de récupérer le ballon et puis de le mettre sur le côté. Débrouillez-vous un peu. C'est pas forcément le Belkebloc qu'on a l'habitude de voir, même la saison dernière. C'est d'un côté, je me dis que Belkebloc, on le connaît, il va finir par revenir à son vrai niveau, mais de l'autre, faudrait pas que ça tarde trop.
C'est ça. Et après, on peut parler de Belkebloc. Belkebloc, on le connaît, il a déjà 26 ans. C'est pas forcément de lui que j'attends des progrès dans le jeu offensif, mais comme je vous disais tout à l'heure déjà quand on préparait le podcast, moi c'est Diallo, j'attends que Diallo maintenant fasse des progrès. On sait qu'il est promis à une belle carrière normalement, mais dans le jeu vers l'avant, et déjà l'année dernière on en parlait, hein, il doit vraiment faire mieux dans ses passes. Là il se montre trop timide et trop peu sûr parfois techniquement, il fait des erreurs bêtes, et voilà, du coup j'ai peur qu'il perde confiance et que du coup ça entrave un petit peu sa progression et les belles choses qu'il avait pu montrer en fin de saison dernière finalement. Et je trouve que voilà, comme disait Quentin, Diallo et Belkebla sont finalement deux profils qui se ressemblent dans la récupération, et il manque ce joueur qui est capable de casser la ligne et d'apporter un plus offensivement, et ce joueur là tant qu'on ne l'aura pas trouvé, va faire vraiment défaut dans notre équipe, dans le lien entre l'attaque et la défense finalement.
Alors moi, assez paradoxalement, je suis pas trop d'accord avec ce que vous avez raconté. J'ai re-regardé le match ce matin, justement, pour me refaire une idée, parce que finalement, ça fait quand même 10 jours qu'il a eu lieu. Donc, pour me rafraîchir la mémoire, j'ai décidé de re-regarder le match et confirmer ou pas l'impression que j'avais eue, qui était quand même plutôt très bonne lors de ce dimanche soir. Et j'ai trouvé une équipe brestoise très dynamique. Alors évidemment, il y avait pas mal de déchets techniques, notamment dans les transmissions vers l'avant, mais c'était compensé par beaucoup de pressing. Pour moi, on était vraiment sur la quintessence de ce que peut faire, de ce que peut proposer Olivier Dalloglio en tant qu'entraîneur, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de pressing qui était très haut et très intense. Régulièrement, on avait deux voire trois Brestois sur le porteur du ballon marseillais, et ça c'est quand même une bonne nouvelle, notamment comme tu l'as mentionné Yann, après la première défaite contre Nîmes. Ça veut dire que les joueurs n'ont pas abdiqué, et ils n'ont pas abdiqué que ce soit à 0-2 ou à 1-3, ce qui je trouve est une bonne nouvelle quand on sait qu'on va jouer le maintien. Donc ça c'est quand même plutôt positif. On s'est quand même créé pas mal d'occasions, 19 tirs à 6, malheureusement sur les 19 tirs et 7 pardon pour Marseille. Sur les 19, on a autant de tirs cadrés que les Marseillais, c'est-à-dire 4. Donc à ce niveau-là, il y a quand même un déficit dans la finition qui est assez dramatique. Et à 59% de possession de balle, pour moi, on a beaucoup de temps fort, très peu de temps faible. Tu parlais des temps faibles brestois, mais finalement, les buts marseillais arrivent au milieu de rien. Le premier arrive sur une touche donc qui est dans les 30 mètres marseillais. Il y a un petit cafouillage, le ballon arrive dans les pieds de Sanson qui oriente rapidement sur Thauvin. Après, la frappe est déviée, ça c'est un peu un coup du sort. Perrault défend correctement, pas très bien, mais correctement. Si la frappe n'est pas déviée, on voit bien que le ballon arrive directement dans les bras de l'arsenal. Donc c'est un peu frustrant. Et les deux autres buts arrivent sur des coups de pied arrêtés. Une défense sur coup de pied arrêté qui a d'ailleurs été abyssale, hein, parce que ce ne sont pas les deux seules opportunités que Marseille a eu sur les coups de pied arrêtés, puisque juste après le troisième but de Thierry Tatsar, il y a Balerdi qui a une énorme opportunité, il est littéralement tout seul au 6 mètres, sur un coup franc très bien tiré de Thauvin. Là-dessus, on a vu la différence assez nette entre les tireurs brestois et les tireurs marseillais, enfin le tireur marseillais, puisqu'il n'y avait que Thauvin qui tirait merveilleusement bien ses coups de pied arrêtés. Et d'une façon plus générale, j'ai trouvé un Brest offensif, dynamique. Évidemment, il y a toujours des lacunes. Il y a beaucoup trop de centres pour personne. Alors, il n'y a pas de raison de centrer quand il n'y a personne dans la surface. Le centre, c'est une passe. Tu ne vas pas faire une passe dans une zone où il n'y a personne, ou en tout cas, où tu joues un 1 contre 3. C'est sûrement pas Charbonnier qui va prendre le dessus sur Chaitatsar dans le duel aérien. Néanmoins, on marque le premier but sur un centre à ras de terre. Donc ça c'est plutôt positif, et on marque le deuxième but sur un centre également au deuxième poteau sur Fossurier qui revient ensuite sur Charbonnier. Donc moi j'ai trouvé plutôt cohérent, plutôt séduisant également. Très bon dans le pressing, très bon dans les transitions. On a été très dangereux lorsqu'on a récupéré le ballon vite et haut. Voilà, pour moi, il y a pas mal de points sur lesquels c'était très intéressant. Et maintenant, il faut attendre de voir face à un adversaire qui est plus en forme physique que l'OM, qui avait quand même des déficits de préparation, qui n'avait pas joué encore de la saison et qui avait manqué quelques matchs amicaux, à qui il manquait notamment un Dimitri Payet, par exemple, qui leur aurait apporté certainement beaucoup plus de maîtrise technique. Et face à un adversaire voilà, de calibre un peu, au moins au niveau du nom, de calibre un peu moindre que l'Olympique de Marseille, où là on sait que déjà l'année dernière, face aux grosses équipes à domicile, on était quand même très performant. Donc voilà, c'est plusieurs choses qui restent à confirmer. Mais en tout cas, moi j'ai apprécié le progrès. Je trouve que par exemple, la séquence entre la 50e et la 70e minute, où Marseille a vraiment très très peu passé la ligne médiane, c'était la meilleure depuis l'arrivée de Dalloglio. Il manquait juste une ou deux occasions franches, très franches. Il y a celle de Charbonnier, mais je pense que Charbonnier où il rate le but vide. Mais je pense que le but aurait été refusé parce que Cardona ou Fèvre étaient hors jeu. Et il y a aussi le but refusé pour un hors-jeu de Cardona sur un très bon centre de Franco Nora. Là-dessus, ces centres étaient généralement dans la bonne zone, mais il n'y avait personne pour les reprendre. Donc, voilà, est-ce que ça valait le coup de centrer? Je ne sais pas, mais finalement, c'est quand même un joueur assez unidimensionnel. Donc, voilà, si on l'a recruté, c'est certainement pour centrer. Pareil pour Romain Perrault de l'autre côté. Donc voilà, globalement, moi je suis quand même assez satisfait de ce match et il y a plus de motifs de satisfaction que l'inverse pour moi dans cette rencontre contre l'OM.
Oui, je pense que personne n'ira dire l'inverse. Après, ce qui est aussi satisfaisant, c'est qu'on a vu les quelques points sur lesquels on peut progresser et ça semble pas insurmontable. Je crois que c'est Fanch qui l'a signalé pendant le match, c'est qu'il y avait parfois un souci d'équilibre avec peut-être une volonté d'aller trop vite vers l'avant ou peut-être des joueurs qui sont trop, etc. Mais ça, c'est des choses qui se règlent très rapidement. 2-3 matchs ensemble, et puis voilà, les joueurs seront mieux. Je pense à un Franco Nora qui a été bien mieux qu'à Nîmes, mais qui n'a pas encore montré qu'on attend de lui, ou en tout cas ce que son prix est justifié.
Sa deuxième période est quand même très très intéressante, j'ai trouvé. Autant en première période, c'était difficile, autant en deuxième période, j'ai trouvé très intéressant, et dans son registre. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'utiliser. C'est pas un joueur de 1 contre 1, malheureusement. Comme tu l'as dit, Yann, tout à l'heure, je pense que si on avait quelqu'un pour exposer plus à ma vie que Sakai, j'ai trouvé sur le côté droit, ça aurait été plus intéressant. D'ailleurs, majoritairement, Honora est passé côté gauche à partir de la demi-heure de jeu pour laisser Cardona sur le côté droit et Fèvre en retrait de Gaëtan Charbonnier en pointe. Et je trouve que ça a quand même bien marché. Donc on attend peut-être davantage de Cardona sur le côté à l'avenir. Même si voilà, Honora et Cardona ont quand même un profil assez similaire. Cardona un peu plus finisseur, mais pas très bon dans les 1 contre 1 non plus. Alors que Honora est plutôt un joueur de débordement, pas capable de faire la différence non plus en 1 contre 1 ou 1 contre 2. Donc voilà, ça reste des joueurs qui sont des joueurs de périphérie, on va dire. Et ça, c'est plutôt négatif. Il n'y a personne qui pourra rentrer sur son bon pied pour envoyer une frappe. Fèvre l'a fait un peu, mais Fèvre, voilà, c'est un joueur d'axe et ce serait bien de le laisser dans l'axe parce que il montre justement que quand il a le ballon dans les pieds, il peut faire des bonnes choses. Maintenant, il faudra surtout progresser au niveau de la consistance sur 90 minutes, mais ça, c'est normal, c'était son deuxième match professionnel. Donc, on va attendre quelques semaines avant de le critiquer parce qu'il ne mérite certainement pas ça actuellement et ce qu'il montre est plutôt prometteur pour la suite, notamment par rapport au prix auquel il a été acheté et aux attentes qu'on peut avoir sur un joueur de ce type.
Je complète sur Fèvre, justement, parce qu'en somme, on va passer plus ou moins aux prestations individuelles. Là aussi, ce qui est très rassurant pour Fèvre, et c'est la même chose que pour l'équipe en général, c'est qu'on voit très bien ses axes de progression et on sait qu'il arrivera facilement à les atteindre. Donc, c'est un joueur qui fait une très belle performance en l'OM, mais qui, surtout, peut arriver à un niveau bien, bien plus élevé. Je pense notamment à son jeu sans ballon, que ce soit offensivement et défensivement. Quelque chose qui vient avec des affinités, c'est quelque chose qui vient en jouant. Et comme tu dis, pour un deuxième match professionnel, c'est de très très bon augure.
Après, est-ce que c'est pas, vous allez dire que je fais un peu le rabat-joie, mais est-ce que c'est pas un petit peu inquiétant que ton meilleur joueur sur une rencontre face à l'OM soit une recrue achetée 400 000 euros qui dispute son deuxième match? Est-ce que ça trahit pas quelque part un petit peu un échec des tauliers, que ce soit Charbonnier, que ce soit Duverne, que ce soit peut-être Belkebla ou même Larsonneur dans les buts. Est-ce que ça ne traduit pas un petit peu le fait qu'ils soient passés, eux, à côté de leur match?
Ah bah je vois.
Au niveau du caractère, je pense que je te rejoins. Enfin, Duverne n'a pas été foncièrement mauvais. En fait, sur le premier but de Chaitatsa, en tout cas, on ne sait pas vraiment qui est au marquage du Croate. Du coup, il se retrouve un peu dans un no man's land. Il essaye de choper la balle de la tête. Après, sur le deuxième, il est vraiment battu physiquement et il peut rien faire, quoi. C'est un peu à l'image de. J'avais fait la comparaison Oumels Varane en 2014. Voilà, il y avait un mec qui est très très fort physiquement, qui est grand, qui est costaud, face à un défenseur qui est finalement pas très grand pour son poste et pas très costaud non plus. Mais il n'a pas été mauvais, mais en tant que capitaine, en tout cas je ne l'ai pas vu, toi peut-être tu l'as vu un peu plus Fonche, puisque tu étais au match, je ne sais pas si tu l'as regardé un peu plus, avec un peu plus d'insistance que les autres, mais est-ce que tu l'as vu haranguer peut-être les joueurs, tu as entendu parler, vu qu'il n'y avait pas trop d'ambiance en tout cas. Mais par contre au niveau des cadres, c'est vrai que, après voilà, ça reste le deuxième match, mais c'est vrai que, enfin, ils n'ont pas été les leaders techniques qu'on peut attendre. Maintenant, il n'y a pas vraiment eu de joueur qui a surnagé dans cette rencontre. Enfin, c'est plus une bonne performance collective. Charbonnier faisait son premier match, faisait sa rentrée. Il n'a pas été mauvais, même si voilà, dans son rôle de finisseur, ça ressemblait plus à celui de l'année dernière que celui de l'année d'avant. Un joueur comme Belkebla, j'ai trouvé très bon dans son rôle. Voilà, si on a pu récupérer le ballon très très haut beaucoup de fois, au moins une dizaine de fois dans les 40 mètres adverses, c'est parce que Belkebla et Diallo sont vraiment très intéressants dans ce pressing haut, dans l'anticipation des lignes de passe. Maintenant, voilà, dès qu'ils ont le ballon, il faut vite le donner à un Fèvre, à un Charbonnier, pour que l'attaque puisse se dérouler de façon cohérente et de façon propre. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'il y a quand même des lacunes, mais on les connaissait. Donc je ne sais pas si on peut attendre de joueurs qui ont finalement une saison de Ligue 1, mais qui étaient des joueurs confirmés de Ligue 2 auparavant, de se mettre au niveau de la Ligue 1 seulement une saison et deux matchs après. Donc voilà, peut-être que ça viendra, d'autant que voilà, la première saison n'a finalement pas été complète.
Du coup, je vais te répondre sur les deux questions finalement que tu as posées, à savoir celle sur l'ambiance et sur la communication. Peut-être la communication d'abord. Alors, je ne vais pas mentir en disant que je n'ai pas regardé forcément, je n'ai pas fait caméra isolée sur Duverne, mais il ne m'a pas semblé communiquer tant que ça. Hein. Il avait l'air, je ne dirais pas en dilettante, parce que ce n'est pas vrai, concentré sur son match, mais pas forcément le meneur d'homme qu'on pourrait imaginer d'un capitaine. En revanche, j'ai trouvé un Ludovic Ball qui essayait beaucoup de communiquer, mais qui, je pense, en fait, communiquait plutôt pour se rassurer, pour bien vérifier son placement, plutôt que pour encourager les autres. Voilà, il essayait de prendre des informations à droite à gauche. En revanche, il y a des joueurs qui ont participé beaucoup plus à l'encouragement général et à la dynamique vocale de la rencontre. Gauthier Larsonneur dans les buts, on l'entendait beaucoup, replacer sa défense, et notamment Ludovic Ball, justement.
Qu'est-ce que ça aurait pu être avec Donovan Léon ?
Qu'est-ce que ça aurait été avec Donovan Léon ? Bah, ça aurait été fou. La Téléfoot aurait fait son audience de l'année, je pense. Et j'ai trouvé en revanche un Romain Perrault très actif, très volontaire et vraiment dans l'esprit, que ce soit parce qu'il a montré sur le terrain, même s'il y a toujours ces petites lacunes défensives, je trouve, de temps en temps. Très volontaire, il communiquait beaucoup, et ainsi que Romain Fèvre, assez étonnamment, je l'ai vu beaucoup participer, replacer ses coéquipiers à droite à gauche. Et voilà, c'est les deux joueurs qui m'ont marqué, les autres un peu moins. Charbonnier, je l'ai trouvé un petit peu râleur comme d'habitude, et il n'a pas tiré vraiment l'équipe vers le haut, à mon sens.
Moi, sur Duverne, j'ai juste eu une impression et peut-être un peu inquiétante, c'est que après le premier but, il y a eu moins d'audace. Enfin, on sait que Jean-Kévin Duverne, c'est un profil particulier, c'est-à-dire assez offensif pour un défenseur central. Là, j'ai eu l'impression qu'il avait moins envie de prendre de risques. Il en a quand même pris, hein, mais moins que d'ordinaire. C'est peut-être le seul point qui m'a inquiété, dans le sens où on sait que la confiance est très important. On a eu l'exemple de Romain Perrault la saison dernière. Il faut espérer que ce ne sera pas le cas les prochains matchs.
Tu fais bien de mentionner Romain Perrault, Fanche, parce que je l'ai trouvé également très bon, une sorte de bouffée d'oxygène. Alors évidemment, il passait après Julien Fossurier à Nîmes, donc évidemment, c'est un peu plus facile pour lui, mais c'est vrai que il a beaucoup d'énergie, et cette énergie semble vraiment contagieuse pour le reste de l'équipe. Si en plus, voilà, il parle, il encourage, c'est vraiment très très positif, et on a retrouvé le Perrault finalement qui nous avait pas mal enthousiasmé en fin de saison dernière, ou en tout cas en milieu de saison dernière, si on peut appeler ça comme ça. Et je trouve ça plutôt bon signe. Alors tu as mentionné évidemment quelques erreurs techniques qui ont failli, notamment une en début de seconde période qui a failli amener un but marseillais. Mais généralement, on a retrouvé le Romain Perrault qu'on avait quitté. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle, parce que c'est un très bon joueur, un joueur qu'on aime tous. Et un joueur qui est vraiment très enthousiasmant à regarder, parce qu'il a beaucoup d'énergie, parce qu'il va au pressing, parce qu'il donne tout sur le terrain, parce qu'il est offensif, parce que c'est un très bon contre-attaquant. Un centreur assez inconstant, mais qui, sur quelques centres, pourra trouver la tête de Steve Mounier. Voilà, je l'ai dit.
Et pour revenir sur l'ambiance, Quentin, oui, effectivement, donc j'étais au match, hein, et c'était très très particulier, franchement, c'était très bizarre. Il y avait en fait, tout le monde portait le masque, évidemment, et il y avait de la place Strasbourg jusqu'à la tribune Quimper, en tout cas la tribune Arkéa, parce qu'il fallait rentrer, enfin, on ne pouvait avoir accès qu'à la tribune Arkéa, malheureusement, des gens avec des mégaphones toute la route qui répétaient sans cesse un message préenregistré, en fait, attention, à cause de la Covid, portez votre masque, sortez, ceci. Donc ça avait une ambiance un petit peu post-apocalyptique, c'était super bizarre. Et ensuite, on est rentré du coup dans le stade. Il y avait un siège sur deux qui était bâché, donc il n'y avait clairement pas un mètre entre deux personnes, hein, ça, c'est évident. Mais au moins, Arkéa, c'était plutôt bien respecté. Les gens ont plutôt bien joué le jeu. Et donc, je pense que c'était triste, parce que l'ambiance au stade était inexistante, la tribune Quimper était vide, les gens en Arkéa restaient assis, c'était obligatoire. Et en revanche, j'ai pas compris ce qui s'est passé en Foucault. Tout le monde était entassé les uns sur les autres, il y avait quand même pas mal de gens. Alors, j'ignore qui étaient ces personnes, mais en tout cas, il y avait là aucune distanciation sociale, contrairement à la tribune Arkéa. Donc, c'était très particulier. Et si je dois faire un résumé très rapide, on va pas passer 15 ans là-dessus, mais le foot dans ces conditions, c'était vraiment pas fun.
Alors, messieurs, on a parlé en longueur de ce Brest-Marseille. Peut-être on a parlé de Fèvre, de Charbonnier, de Diallo, Belkebla. Juste un petit mot peut-être sur Ronald Pierre-Gabriel. Moi, j'ai trouvé plutôt pas mal non plus. Enfin, plutôt pas mal aussi. Côté droit, je trouve que c'est vraiment une plus-value. Alors, il est un peu lent au démarrage. En fait, il va vite, mais il met longtemps à trouver sa vitesse maximale. Donc, parfois, il est un peu en retard sur son ailier. Notamment quand c'est Radonjić. Alors Radonjić, il est effectivement très très mauvais, hein, mais il va vite sur ses premiers appuis. Donc on a vu Ronald Pierre-Gabriel quelques fois en retard, mais défensivement et même offensivement, il y a eu quelques bonnes choses. Je trouve que c'est plutôt un deuxième bon match, et s'il reste en bonne santé, je pense que ça peut être une bonne pioche pour Grégo Lorenzi et le Stade Brestois sur ces deux prochaines années, donc.
La question que tu l'as soulevée, c'est quelle est sa santé, quel est son état de forme. Moi, je te rejoins, il attaquait du côté droit, donc du côté de la tribune Arkéa en première période, et plusieurs fois, on l'a vu monter. Physiquement, il est assez impressionnant du stade, je trouve. En fait, il met du temps à démarrer pour aller vite, mais une fois qu'il est lancé, il est assez impressionnant et assez costaud. Et je pense qu'il peut apporter à cette équipe brestoise. Après, pareil, voilà, c'est toujours la même chose. En défense, c'est aussi une question d'automatisme. Ça fait que deux matchs. Il va falloir lui laisser un petit peu de temps. Mais je te rejoins, Quentin, sur l'idée de la plus-value. Je pense qu'on en est pas loin.
Alors, c'est vrai, finalement, c'est moi qui vais faire le rabat-joie. Pour une raison très simple que Quentin a évoquée, c'est que c'est Radonjić en face et que le mec a fait un match dégueulasse. Après, dans l'intention, dans les automatismes, ça avait l'air d'être prometteur, mais on va voir que c'est un véritable ailier.
Voilà, après, c'est pas de sa faute si Radonjić est éclaté au sol. Hein.
Bien sûr que non. C'est un bon signe, déjà, ne pas couler face à un mec nul, c'est que t'es pas nul. Mais j'attends de voir face à des ailiers en pleine possession de leurs moyens.
On a fait le tour en longueur.
Il n'y a que deux matchs.
Il n'y a pas encore urgence, mais voilà, il va pas falloir non plus tarder pour marquer les premiers points. Et pourquoi pas à Dijon dimanche à 15h.
Oui, avant de me libérer.
Exactement, c'est ce que j'allais dire.
Avant de me libérer.
Confusion de ta part, allez.
Je pense que le match de Dijon va nous donner pas mal d'enseignements. Si on arrive à couper cette spirale de défaite, on peut repartir sur un nouveau cycle, avec surtout la venue de Lorient dans une semaine. En revanche, si défaite il y a Gaston Gérard, je pense que déjà, est-ce qu'on pourra parler de crise ? On va peut-être pas non plus exagérer, mais on sera sur un début de saison relativement inquiétant. Alors voilà, on sera très attentif à ce qui va se passer à Dijon. Vous allez parler de ce match et de vos attentes. Je ne peux malheureusement pas rester avec vous pour ça. De mon côté, je pense qu'un point à Dijon déjà serait assez rassurant, dans le sens où voilà, on ouvrirait notre compteur points cette année et puis on ne perdrait pas chez un concurrent direct parce qu'on a déjà fait ça à Nîmes et que ce n'est pas forcément l'idéal.
Parfait. Ben merci bien, Franck, d'avoir pris ces quelques minutes pour être avec nous. Ça te tenait à cœur, on le sait, de parler à tous les auditeurs, à tes fans.
Et à vous aussi, mais je ferai mon retour dans le podcast complet dès la semaine prochaine, bien sûr.
Ben on a hâte, et toi aussi, j'imagine.
Oui, absolument.
D'ailleurs, tu as sûrement plus de hâte que nous.
Oui, je te le confirme.
Bon, sur ce, à la semaine prochaine, Franche. Et merci encore pour ce que, tu fais pour la France.
Bonne fin de podcast. Y allez, Brest.
Canavo.
Canavo.
Alors Yann, nous voilà ensemble et seuls pour cette dernière petite demi-heure de podcast. Je voulais juste rajouter qu'on avait marqué au pire moment possible en première période, juste avant la mi-temps, parce qu'on n'a pas pu continuer ce temps fort. Et je trouve que voilà, c'était paradoxal parce que généralement on dit que marquer avant la mi-temps est le meilleur moment possible. Là pour le coup, je trouve que c'était le moins bon. Parce que justement, on n'a pas réussi à continuer à appuyer sur l'accélérateur et à continuer à surfer sur cette vague positive qu'on avait réussi à enclencher. Alors maintenant, ce n'est que du passé et il faut se projeter sur le futur. Le futur, c'est avec les news.
Ah, les supporters là, c'est quoi les news ce soir ?
Alors les news, toujours des résultats puisque les saisons ont repris pour les jeunes et les féminines maintenant. On a deux matchs à récupérer pour certaines équipes, puisque donc la semaine dernière, nous n'étions pas là pour faire ces résumés. La N3, donc, deux matchs, une victoire, une défaite. Ça a commencé par une défaite dans le derby contre Plouzané. 2-0. Puis une victoire 2-1 contre Lannion avec des buts de Kylian Benvindo et Rafiki Saïd. Donc Benvindo, c'est agréable parce qu'il continue sur sa très bonne préparation avec l'équipe pro. Alors c'est important de préciser, Yann, tu étais au match, que l'équipe de N3 a pas mal de blessés, notamment au premier match. Ça explique en partie la défaite à Plouzané, mais on a vraiment une équipe très très jeune en N3 actuellement, avec pas mal de 2002, quelques 2003 même, donc des joueurs U18. Hein, donc ça peut expliquer en partie ce début de saison un peu inconstant. Mais Yann, tu étais au match. Qu'est-ce que tu peux en dire de ce match de cette victoire contre Lannion ?
Je pense que c'est Lannion a des regrets très clairement. Contrairement aux pros, l'AB a été ultra réaliste. Hein, il y a trois occasions de but. Je souligne le très bon apport de Kylian Benvido qui se marque son but tout seul en faisant la différence tout seul puis en gagnant face à face. Et qui donne un très très bon ballon à Rafiki Saïd sur le deuxième but, dans une position pas facile. Donc, il montre quand même qu'il a passé un cap sur cette prépa. C'est vraiment une grosse satisfaction. Puis après, l'autre gros point fort de ce match-là, pour moi, c'est justement en 2003. Josué Escarpin, qui est donc défenseur central.
Là, tu me fais plaisir. Là, Yann, tu me fais plaisir.
Et c'était un super match pour lui, mais d'un autre côté, c'était un match taillé pour lui, dans le sens où Lannion a eu énormément de coups francs, a énormément allongé le jeu, et avec son gabarit et son excellent jeu de tête, il a tenu la baraque en deuxième mi-temps. Globalement, c'est une bonne performance défensive. Offensivement, il peut espérer mieux, mais voilà, l'important, ça reste 3 points, c'est un bon démarrage de saison.
Après, on rappelle qu'évidemment, Josué Escartin n'a que des points forts, donc c'était évident que Lannion allait jouer sur ses points forts. On continue rapidement avec les U19 donc qui reviennent au niveau national, donc en U19 nationaux. Et ils ont retrouvé les terrains avec une victoire contre Vertoux. Une victoire 1-0 il y a 10 jours avec un but de Matteo da Silva, un but de la tête. Alors c'était un peu brouillon, c'est normal pour une première. Pas de recrue, assez bizarrement, il n'y avait pas de recrue au niveau des U19. C'était 11 voire 13, 14 joueurs qui avait joué au Stade Brestois l'année dernière. Par contre, pas mal d'absents parce que certains avaient joué en N3 la veille et pas mal de joueurs qui ne jouaient pas à leur poste. C'est notamment le cas de Rémi Mauguin qui jouait avançant, Pierre Jouant qui jouait défenseur central, alors que c'était un 6-8 de formation. Mais un but de Matteo Da Silva, donc l'arrière droit qui s'est retrouvé sur un corner tiré à deux, qui s'est retrouvé donc au centre pour marquer cette belle tête et donner la victoire au U19. Ils n'ont pas joué ce week-end à Concarneau, ça aurait dû être le derby finistérien, mais il y a quelques suspicions de cas de coronavirus du côté de l'US Concarneau, donc voilà, pour ils ont voulu assurer le coup et ne pas jouer la rencontre, alors que cette rencontre devait se jouer à Guy Piriou, donc le stade de l'US Concarneau, dimanche après-midi. Ils joueront évidemment dès dimanche dernier. Alors attendez que je retrouve mes petites notes. D'ailleurs, je n'ai pas donné non plus le match à venir de la N3. On va faire ça tout de suite. Donc le Stade Brestois, les U19 joueront dimanche contre le Tour FC. Ce sera à 15h à Penhelen. Donc si ce ne sera pas à huis clos. Mais si vous venez, le masque est obligatoire. Il y avait environ 100-150 personnes quand même pour le premier match de championnat des U19. Et donc la N3 jouera contre la réserve du Stade Rennais. Donc ce sera samedi à 18h à Ménespol. Ça peut être un match plutôt intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous branche, d'aller faire un petit tour. Les U17, eux, ont débuté leur saison dimanche dernier. Donc les U17 de Olivier Aurillac. Un match nul un peu décevant contre Vertou. Là, pour le coup, il y avait pas mal de recrues sur le terrain. Le but a été marqué par
Léo Boltz.
Exactement. Lui, pour le coup, c'est une recrue également. Et enfin, on termine par l'équipe féminine, bien évidemment. Alors, on fera un point un peu plus complet sur les féminines quand il y aura un peu moins de programme au niveau du podcast pour avoir un peu plus de temps pour détailler les transferts et tout ce qui s'est passé cet été du côté des féminines. Mais donc, défaite 3-1. Contre Metz qui descendait de D1 Arkema, donc c'est comme ça que ça s'appelle désormais. Donc c'était vraiment un cadeau pour l'ouverture du championnat. Et donc les féminines se sont inclinées 3-1. Le but brestois a été marqué par Ariel Roy-Petitclerc, donc la québécoise, la canadienne. Ça, c'était compliqué, un match compliqué pour les féminines et une défaite assez logique compte tenu de l'écart de niveau. Même si Brest jouera certainement les premiers rôles cette saison, ce sera dur d'aller chercher Metz et Lille par la même occasion, qui sont les deux favoris, je dirais, pour la montée en D1. Ça continue dès le week-end prochain, donc ce sera à Saint-Maur. Il me semble que c'est dimanche après-midi également. Donc voilà, il n'y a pas de quoi paniquer encore pour les féminines. Mais pourquoi pas ouvrir le compteur victoire, voilà, ce sera à Saint-Maur à 15h dimanche.
Comme tu as dit, on y reviendra, mais il me semble que ça a été un mercato très agité du côté des féminines avec 9 ou 10 recrues. Donc c'est normal.
C'est assez normal à ce niveau de compétition. Il y a pas mal de changements entre les équipes. Il n'y a pas toujours des contrats. Les joueuses ne sont pas toujours sous contrat, donc peuvent naviguer assez librement au niveau légal. Donc il y a pas mal de changements pour globalement tous les clubs de D2. Et le Stade Brestois ne fait pas exception à cela. Yann, ta chronique habituelle, je te laisse partir. Sur les anciens Brestois, ont-ils brillé ou pas ce week-end?
Alors, ce week-end, pas trop, parce qu'ils n'ont quasiment pas joué. Mais du coup,
pas trop d'internationaux au niveau anciens Brestois. Hein.
Et non, seulement Ibrahima Diallo qui a joué avec la France U21 contre l'Azerbaïdjan. Une victoire, bon, pas passionnante, mais une victoire. Donc, je vais faire mon habituel tour en démarrant par la Ligue 2. On a quand même un petit paquet de Brestois. On salue Mathias Autrette qui marque son premier but avec Auxerre pour la victoire d'Auxerre 2-1 face à Châteauroux. Châteauroux qui a longtemps tenu grâce à un Julien Fabry plutôt costaud sur la rencontre. Ça fait plaisir de voir que Julien Fabry, qui ne laisse pas forcément un très bon souvenir sportif à Brest, a réussi à se relancer parce que c'est quand même un bon gars, visiblement. Mais du coup, Auxerre démarre en face cette saison, première victoire en 2 matchs. Il reste quand même 3 points derrière le nouveau co-leader de Ligue 2, le Sochaux-Montbéliard, toujours coaché par Omar Daff. Si on pouvait le revoir en Ligue 1 l'an prochain, ça serait assez plaisant. Omar Daff qui a donc battu avec Sochaux l'Estac 3 qui les a battus sur le score de 2-1. Et si je vous parle de 3, c'est pas forcément anecdotique, c'est parce que Lenny Pintor devrait y retourner. Ça devrait être officialisé à l'heure où vous écoutez ce podcast. Donc Lenny Pintor de retour à l'Estac, toujours entré. Donc Brest ne s'assoit pas encore pour son pourcentage à la revente.
On sait évidemment que 3 vient d'être acheté par le Citigroup. Donc la passerelle est toute trouvée pour 20 millions hein, pour Lenny Pintor qui partira pour 20 millions à Manchester City après une saison à 20 buts et 10 passes décisives. Lyon qui le lâchera bien volontiers pour une somme à 8 chiffres. Et donc c'est Denis Le Saint qui s'en mettra plein les poches évidemment puisqu'on a 15% sur, alors soit sur la plus-value, soit sur la revente sèche en tout cas, et on a aussi des bonus. Donc bon, ça c'est je pense que c'est un peu mort. Mais la revente, c'est toujours important.
C'est ça. L'autre joueur sur qui, par contre, on n'a pas de pourcentage à la revente, et je dois t'avouer que ça me fait chier de citer son nom dans cette catégorie, c'est Mathias Faeton, qui a arraché le match nul pour l'en avant de Guingamp face à Nancy. Une très belle rentrée pour l'ancien Brestois, même si on ne va pas le regretter, surtout vu les circonstances de son départ. Mais ça reste à signaler, la formation brestoise s'impose en Ligue 2. Formation brestoise qui, on l'espère, va pouvoir s'imposer en Europe dans les semaines à venir. Robin Lenormand devrait faire son entrée, sauf erreur de ma part, en Europa League lors de la phase de poule avec la Real Sociedad. Mais il pourrait y retrouver deux autres brestois. J'y crois pas trop, mais on sait jamais. D'abord, Charlison Benchop, qui a ouvert son compteur but cette saison avec l'Apollon Limassol en championnat avec une victoire 6-0 face à Hermis. Et a priori, le match d'Europa League qui aura lieu le 17 septembre, match qualificatif opposant l'Apollon Limassol face à l'OFI Crète, devrait être là encore une formalité pour l'équipe de Charlison Benchop. Donc on peut espérer le voir un peu plus loin. Par contre, je vais être un peu rabat-joie de nouveau, mais l'autre ancien Brestois engagé dans cette compétition, à savoir Steven Joseph Monrose, risque de voir sa compétition terminée le samedi 17 décembre puisqu'il jouera le Galatasaray avec son équipe du Neftchi Bakou. Donc voilà pour les Brestois qui ont brillé. Peut-être que tu en as d'autres à ajouter, Quentin ?
Absolument pas. On va continuer ces news avec une bonne nouvelle, la prolongation de Harris Belkebler jusqu'en 2023. Vous l'avez tous vu, notamment au niveau des réseaux sociaux, avec un clip plutôt bien foutu de la part de la cellule de communication du Stade Brestois, un clip un peu street, hein, on peut le dire comme ça. Donc voilà une bonne nouvelle qui pourra évidemment, si jamais Ibrahima Diallo vient à partir d'ici début octobre, ça pourra compenser. On avait vu pas mal de rumeurs autour de Harris Belkebla à Lens notamment. Alors personne n'y croyait, hein, mais voilà, c'est bien de voir que Harris se plaît à Brest, pardon, et que il va continuer l'aventure. C'est toujours plaisant de voir un joueur de cette qualité et de ce tempérament sous les couleurs brestoises.
Et de cet investissement, parce que globalement, depuis son arrivée...
Gratuite, hein, il faut le rappeler. Oui. Elle est gratuite, donc voilà, effectivement, c'était une recrue de premier choix. On continue au niveau du mercato, puisque donc, que ce soit l'équipe, le Télégramme ou bien autre, Manu Longeon, hein, évidemment la légende Manu Longeon, ont annoncé la signature très prochaine, c'est peut-être même déjà officialisé normalement, en tout cas si on les croit, c'est officialisé pour Steve Mounier, donc qui arriverait du club de Huddersfield pour 4 millions d'euros sans les bonus, donc un peu plus avec les bonus, pour une durée de 4 saisons. Donc le Stade Brestois tiendrait son attaquant de pointe. Donc chacun aura son avis, on fera un podcast spécial sur les recrues comme on a pu le faire autour de Franck Honora et de Christophe Herrel par exemple, où on aura une spécialiste de Huddersfield, puisque on tease un peu la chose et on garde le suspense, mais on a une spécialiste de Huddersfield dans les dossiers, donc on n'hésitera pas à sortir cette carte pour vous présenter Steve Mounier. Je pense que jusque là, notamment sur Franck Honora, on a plutôt été juste, donc voilà, c'est... On essaiera de continuer et de faire la même chose avec Steve Mounier et pourquoi pas Lilian Brassier qui, sur l'équipe, serait proche également du Stade Brestois pour un prêt avec option d'achat. C'est toujours mieux d'avoir une option d'achat quand tu fais un prêt, et d'autant qu'elle est surprenante, c'est ce que te disaient tes amis rennais.
Bah effectivement, puisque mes collègues rennais me l'ont même présenté comme étant le deuxième plus grand espoir du défensif du Stade Rennais après Brandon Sopi. Quand on voit les performances que délivre Brandon Sopi en ce début de saison de Ligue 1, ça laisse assez rêveur. Hein. Ça peut être une top recrue à un poste où on est déjà relativement bien fourni en qualité.
Mais assez parlé du Stade Rennais, hein, puisque ce n'est pas Rennonnais, évidemment, c'est Brestonnaire, et on va parler directement du prochain match du Stade Brestois, c'est à Dijon, pour un match déjà important.
Amora, par amour du goût.
Et quand on parle de Dijon, évidemment, on ne peut pas taire le nom du Dijon Show, le Dijon Show qui fait un boulot vraiment excellent sur le Dijon Football Côte d'Or. Et donc, Yann, comme d'habitude, tu es le préposé aux interviews des supporters adverses, ou en tout cas des sites de supporters adverses. Et donc là, encore une fois, tu as eu la...
Effectivement, j'ai eu la chance de m'entretenir avec le Dijon Show, et plus précisément avec Julien du Dijon Show. Julien, merci de nous accorder un peu de ton temps.
Bonjour, merci à vous de nous avoir donné la parole sur Brestonnaire.
Alors, on avait déjà reçu, il me semble que c'était Thomas du Dijon Pro l'an dernier.
Maintenant, oui.
C'est Julien, et il faut quand même avouer que depuis l'an dernier, il y a eu pas mal de choses qui ont changé au Dijon Show. Tu peux peut-être nous en parler rapidement.
Ouais, c'est vrai que aujourd'hui le Dijon Show, on a la chance d'avoir des relations qui sont assez stables avec le club et qui nous permettent, enfin le club du DFCO, qui nous permettent d'avoir quelques accréditations, d'envisager l'avenir plus sereinement. Alors voilà, on a changé d'identité avec un nouveau logo, on a fait une refonte du site, on propose maintenant des podcasts, enfin une web TV donc sur Twitch. Avec deux émissions, et puis on compte en faire à peu près une par match en général pour le reste de la saison.
Alors, vous avez quand même, enfin, c'est un travail qui, je suppose, doit se préparer depuis un certain temps. Comment vous l'avez vécu la fin de saison passée, et notamment cet arrêt précoce? Est-ce que pour vous, la fin à la 28e journée, ça a été plutôt quelque chose?
Alors, on n'était pas tout à fait serein non plus. Hein, je crois qu'on se maintient à 4 points, enfin à pas grand-chose. Mais on était quand même sur une pente ascendante plutôt quand même depuis le mois d'octobre. On était sur une dynamique positive. Donc en soi, on n'était pas plus inquiet que ça, même si on voyait Nîmes revenir assez vite. Il y avait des Saint-Étienne, Amiens et Toulouse qui étaient complètement dans la charrette. Donc c'est peut-être plutôt ces trois équipes-là qui auraient pu être inquiétées. Enfin, du coup, Amiens et Toulouse sont bien descendus, hein, mais pour nous, l'arrêt du championnat, c'était assez évident. Enfin, c'était une évidence. On pouvait pas continuer comme ça. Maintenant, nous, c'est vrai que ça nous a un peu déçus de terminer la saison là-dessus. Après, c'était quand même une saison galère. On va pas se le cacher. On était en pleine période de transition et c'est encore un peu le cas cette année avec donc Stéphane Jobard qui avait été qui est un rookie en fait, qui faisait sa première saison en tant que coach principal d'une équipe professionnelle. Donc c'était malgré le fait qu'il ait pas mal d'expérience quand même dans ce milieu-là, avec en plus une saison presque une saison en tant que si une saison entière je crois en tant qu'adjoint de Rudy Garcia à l'OM, il a quand même pu engranger un peu d'expérience aussi aux côtés de Dalloglio pendant 6 ans si je dis pas de bêtises au moins. Donc c'était un choix évident l'an dernier d'avoir Jobard. Cette saison, pour l'instant, il est encore en train de... De toute façon, on en a encore qu'à nos balbutiements. C'est assez dur de prédire qui va finir où en Ligue 1 cette saison et de savoir si au final on va pouvoir être compétitif ou pas. Pour l'instant, on ne l'est pas du tout. Et du coup, voilà, il y a encore un mercato qui a terminé. On a des recrues offensives qui vont arriver. La première, donc Roger Assalé qui arrive des Young Boys, qui va faire beaucoup de bien, je pense, à notre équipe, puisque globalement, on manquait de créativité, on manquait de quelqu'un qui puisse éliminer en un contre un d'un avant-centre, voilà, de cette capacité, enfin, qui a ces qualités-là. Il peut jouer tout aussi bien avant-centre que sur un côté, ou peut-être même derrière un numéro 9, avec plus un profil de pivot, et donc lui, à ce moment-là, il se concentrait d'un rôle de meneur de jeu. Mais je pense que voilà, c'est un joueur qui est assez polyvalent et qui plaira à Jobard. Et c'est pour ça qu'on a tant insisté pour le recruter. Je crois qu'au début, il ne voulait pas du tout venir. Ça ne l'intéressait pas, le projet de Dijonais. Et puis, Peggy Louyindula a su le convaincre, un peu comme Diop, qui est arrivé il y a déjà de ça quelques semaines. Donc voilà, il y a quand même quelques noms intéressants dans notre mercato. C'est difficile de savoir où est-ce qu'on va, mais il y a des... En tout cas, c'est prometteur. Voilà. On ne peut pas trop tirer de conclusion pour l'instant. On a fait un non-match contre Angers à la première journée et puis on s'est fait complètement ridiculiser par Lyon. Je pense qu'on a beaucoup de problèmes de confiance dans l'effectif et d'harmonie, en fait. Les joueurs ne s'entendent pas encore tout à fait bien comme il le faudrait. Et ça se voit, ça pose problème. On marque des buts contre notre camp. C'est un peu la cata défensivement. Alors que l'an dernier, c'était plutôt notre point fort. Donc même avec Gomis dans les cages et puis des cadres qui sont restés, je pense à Ekuele Manga, je pense à Ndong qui était très très bon l'an dernier. Bah, mine de rien, ces joueurs-là, ils pêchent un petit peu. Bon, c'est pas trop le cas de Gomis, mais ces joueurs-là, ils pêchent un petit peu en ce début de saison. Même pendant la préparation, c'était assez décevant et inquiétant. Donc on va bien voir ce que ça donne. Voilà, en espérant que les quelques recrues qui vont arriver encore vont pouvoir nous permettre de solidifier tout ça.
Et justement, tu parles de potentiel recrue à venir. Mmh. Pour toi, c'est quoi la priorité pour Dijon dans la semaine à venir ? C'est plutôt défensif, offensif ?
Ben, comme ça a été dit par le directeur sportif et puis par le coach, il manque encore au moins un élément offensif, je pense. Ne serait-ce que pour pallier aux absences de Baldé en ce moment, qui je pense ne pourra pas commencer, même peut-être pas être sur le banc contre Brest ce week-end. Mais je pense aussi, voilà, par exemple, il y a une absence longue durée, c'est Yacine Benzia qu'on avait recruté l'an dernier au mercato d'hiver, qui a au final joué 3 matchs et qui après la fin prématurée de la saison a pas pu rejouer du tout et s'est blessé à la main. Il ne rejouera pas non plus avant janvier. Je pense que c'est un joueur qui peut nous apporter, mais on ne peut pas compter sur lui pour l'instant, ni même sur un retour en forme très, très, très rapide en janvier. Il faut laisser le temps, peut-être même encore une saison de repos qu'on complète. Donc au final, il va falloir au moins un joueur créatif encore en plus, ou un finisseur. Je sais qu'on cherche un profil vraiment un avant-centre qui pourrait épauler Roger à Salé toute la saison, parce que Aurélien Schedler, donc il a fait deux bons premiers matchs, c'est peut-être une des rares satisfactions de notre effectif, Aurélien Schedler, donc recruté d'Orléans pour 1,5 million l'hiver dernier et qui était resté en prêt là-bas. Mais je pense qu'il faut quand même quelqu'un qui ait les épaules, qui a un peu plus d'expérience, qui ait les épaules pour nous faire maintenir, parce que là on est encore en mission. Hein. Clairement, l'objectif ça va être de se maintenir. Si on arrive à faire une belle saison, tant mieux, mais on va pas cracher dans la soupe si on finit à nouveau 17e ou 16e cette saison. Surtout que la concurrence elle est rude, hein, quand on voit comment les promus se renforcent, comment Brest se renforce aussi d'ailleurs. Les équipes autour de nous, les équipes de notre championnat plaisantent pas sur le marché des transferts, donc faudra pas être trop déçu, même si on est fini juste au-dessus des barrages. Et je pense aussi qu'il manque une recrue défensive, donc là c'est plutôt quelqu'un qui pourrait jouer à la fois défenseur central et défenseur droit, si possible. Un profil qui nous manque aujourd'hui, parce que on a des joueurs, des valeurs sûres qui commencent à montrer quelques signes d'irrégularité, comme donc je pense à Ekuele Manga, je pense à Fouad Chafik aussi, qui est plus régulièrement blessé et un peu moins bon que les années précédentes. Mais voilà, donc il faudra de toute façon gagner. C'est plus ces automatismes en fait qui manquent. C'est plus cette capacité pour les joueurs à bien s'entendre, à bien jouer ensemble et à se lâcher complètement, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de timidité, beaucoup d'à peu près, et on peut pas gagner des matchs si personne n'a confiance en son coéquipier, quoi.
Et justement, si Dijon est amené à battre le Stade Brestois ce week-end, ça serait, selon toi, c'est sur la base de quel point fort ? C'est quoi aujourd'hui, à l'heure actuelle, le gros point fort de Dijon ? Mounir Chouillard ?
J'aurais pas dit Mounir Chouillard, parce que c'est vrai que c'est un très bon joueur, mais il revient d'une... En gros, sa préparation a été tronquée parce qu'il a une blessure en plein milieu. Et il a manqué de rythme depuis la rentrée, depuis la reprise. Je pense pas que ce soit le joueur qui change tout. Si jamais on arrive à battre Brest, cette semaine d'entraînement, la mise au vert aussi juste avant le match qui est prévu auront fonctionné, parce que je pense pas qu'on puisse s'appuyer aujourd'hui sur un seul joueur. ça va être trop compliqué pour nous. On n'a pas de qualité individuelle assez forte dans nos joueurs pour pouvoir faire confiance à ça. Par contre, ça peut venir voilà d'un renouveau de l'état d'esprit collectif et d'une ouais c'est ça juste d'un du fait que tous les joueurs puissent vouloir tirer ensemble dans le même sens, mettre leurs appréhensions de côté, peut-être leur fierté de côté aussi parfois parce que voilà on veut des joueurs qui seront capables d'aller gagner les 3 points sans marcher sur le terrain quoi. C'est un peu ça qui nous fait un peu peur. Mounir Chouillard effectivement comme tu disais c'est un très bon joueur mais il est encore un peu trop tendre parfois et il a tendance à se décourager un peu facilement.
Stade Brestois Dalloglio aujourd'hui je pense que la prestation face à Marseille a été remarquée par beaucoup de monde mais est-ce que toi il y a un élément qui te fait un peu craindre le Stade Brestois au final, c'est la dimension collective, le fait que ce soit Dalloglio ou c'est peut-être un joueur en particulier qui te fait un peu peur, si on veut.
Je pense que n'importe quel club avec Dalloglio à sa tête finit au moins 4 ou 5 places au-dessus du classement où il devrait terminer. C'est pas une science exacte, hein, mais très clairement c'est votre gros point fort. Et après, vous avez des joueurs de ballon aussi qui sont assez intéressants à tous les postes, je pense. J'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il sera disponible Christophe Herel pour le match de dimanche.
Si normalement, ce sera son premier match avec nous.
Ouais. Bah pour le coup, je trouve que c'est exactement le genre de joueur qui peut vous faire passer un cap encore. Le match à Nîmes, le match contre Nîmes, c'était clairement pas. C'est un coup comme ça. Ça va pas se reproduire dans la saison, je pense. Même si on connaît les difficultés de Dalloglio quand il faut faire jouer son équipe à l'extérieur, je pense pas que ça se reproduira trop souvent et que c'est juste un coup d'un soir comme ça et il y aura pas de ça se répétera pas. Je pense que Brest va encore faire une belle saison.
Alors, Dijon-Brest, Yann, donc ce sera dimanche à 15h. Après une trêve internationale, on devrait retrouver Christophe Herel de nouveau présent pour son premier match de championnat avec le Stade Brestois. On devrait aussi retrouver Steve Mounier qui, selon le Télégramme, devrait être qualifié pour jouer dimanche, en tout cas ce week-end. Et ça fait deux bonnes nouvelles supplémentaires pour un effectif qui continue de se construire. Et qui va devoir gagner des points assez rapidement, surtout face à un adversaire de la taille de Dijon qui, eux aussi, vient d'encaisser deux défaites en deux matchs.
Avant de rentrer dans l'analyse pure de l'équipe de Dijon, je tiens quand même à faire un petit point historique. Et on parle beaucoup de nos difficultés au Costière à Nîmes, mais nos difficultés à Dijon, c'est pas mal non plus. Nos 5 derniers déplacements, c'est 5 défaites. On pense notamment à défaite 3-0 l'an dernier, avec notamment un doublé de Mama Baldé qui, heureusement, ne devrait pas être là cette année. Mais du coup, si on remonte vraiment, si on cherche la dernière victoire brestoise en terre dijonnaise, c'est 2009. Donc ça commence à faire un petit bout de temps. On serait bien inspiré de mettre fin à cette série dès dimanche. Je trouve que leur mercato peut effectivement être très bon, mais un peu à l'image du nôtre, c'est beaucoup de paris. Roger Assalé a fait ses preuves à Berne, mais est-ce qu'il est capable d'avoir le même niveau de performance en Ligue 1? On ne sait pas trop. Le jeune espoir Panzo, qui vient de Monaco, n'a aucune expérience pro, un peu comme Romain Feuve, tu diras. Et je trouve que vraiment, quand on regarde l'effectif de Dijon, c'est dur de ne pas être condescendant, mais pour moi, c'est la plus mauvaise équipe de Ligue 1.
Ça vient d'un effectif qui est finalement pas très bon non plus de notre côté. Voilà, offensivement, ils se baseront certainement sur Mounir Chouillard, qui, on parlait tout à l'heure de Radonjić et de Ronald Pierre-Gabriel. Là, pour le coup, on aura sûrement un adversaire un peu plus solide pour Ronald Pierre-Gabriel. On pourra un peu juger un peu mieux ce qu'il a dans le ventre, en tout cas au niveau défensif.
Mais au final, c'est un profil très similaire à celui de Yacine Benraou qu'on a vu avec Nîmes il y a 2 semaines. Je pense quand même que c'est un bon joueur, mais c'est pas dans les meilleurs de Ligue 1. C'est toujours dans ma logique que Dijon n'a pas un très bon effectif. C'est Je serais assez inquiet de savoir que Mounir Chouillard est ton meilleur joueur.
Après, il a quand même pas mal explosé la saison dernière. Il y avait quand même pas mal de clubs plutôt intéressants au niveau européen qui étaient sur le profil de Chouillard, qui partira quand il partira pour, je pense, une belle somme d'argent, une somme à 8 chiffres très certainement. Mais pour toi, la clé de cette rencontre, elle se situera où? On sait que voilà, Brest reste sur une défaite encourageante, un peu une oxymore de dire ça, mais voilà, une défaite encourageante du coup, contre Marseille, on en a parlé tout à l'heure en long, en large et en travers. Et ça demande confirmation, évidemment, d'autant qu'on connaît, tu l'as rappelé, notre passé à Dijon, notre passé à l'extérieur. On se souvient de la saison dernière à Dijon, où ça paraissait être un match important, et dès les premières minutes, on se fait cueillir à froid, on perd 3-0, il y a 2-0, je crois, après un quart d'heure de jeu. Donc il y a quand même, il faut se racheter, il faut se reprendre. Et là, on est quand même si c'est la troisième journée, on est sur un match qui ressemble à un match à 6 points.
Et après, j'essaye de positiver un peu, je fais mes recherches. Au final, n'avoir aucun point après 3 journées, c'est loin d'être dramatique. J'ai Angers, il y a 2-3 ans, c'était le cas, ils sont maintenus sans souci. Amiens, il y a 3 ans, c'était sans souci aussi. Même la saison dernière, il me semble que c'était Dijon qui était déjà 0 point après 3 matchs. Mais effectivement, c'est le côté concurrent direct. Et puis, ça reste, enfin, je reste encore là-dessus. Mais si on perd face à une équipe qui aligne en défense centrale Bruno Ekwulamanga et Wesley Lotoa, il y a des raisons de s'inquiéter.
Moi, je pense que c'est au milieu de terrain qu'il y a un gros coup à faire. Jordan Marié et Amalfitano, j'ai oublié son prénom, Romain Amalfitano. Je pense que il y a Didier Ndong qui joue derrière eux. Dijon joue régulièrement en 4-3-3, en tout cas c'était le cas contre Lyon. Je pense que Belkebla et Diallo doivent prendre le dessus sur un milieu de terrain de cette qualité, qui est pour moi un milieu de terrain Ligue 2, Ligue 1,5, mais plutôt Ligue 1,8, tu vois. C'est plus Ligue 2 que Ligue 1. Ça peut jouer en Ligue 1 sur certains matchs, mais quand tu as un milieu de terrain, Diallo, Belkebla, voire Romain Fèvre qui jouerait, pour moi, c'est son meilleur poste, en tout cas en numéro 10 derrière un attaquant. Pour moi, ça doit prendre le dessus, que ce soit au niveau de l'intensité, au niveau technique, évidemment, au niveau des duels, au niveau de l'anticipation, ça doit prendre le dessus sur leur vis-à-vis dijonnais. C'est un match, pour moi, j'attends vraiment beaucoup du milieu de terrain. Ensuite, il y aura de quoi faire. Si tu gagnes déjà la bataille du milieu de terrain, il y aura de quoi faire au niveau des côtés, notamment peut-être de Steve Mounier, hein, qui jouera peut-être pas sa titulaire, hein, puisque ça fait quand même pas mal de temps qu'il n'a pas joué un match en compétition. Je sais pas où en sont les clubs de championship dans leur préparation, mais on aura le temps de le voir d'ici là. Donc voilà, c'est pour moi, il y a vraiment la clé du match se situera au milieu de terrain. Et ensuite, si tu gagnes le milieu de terrain, tu pourras faire ce que tu veux du match, soit jouer par les côtés et centrer comme on l'a fait pas mal de fois, soit laisser les ailiers revenir dans l'axe et écarter sur tes latéraux pour chercher des 1-2, des dédoublements plutôt dans les demi-espaces. Enfin, ça peut laisser davantage d'options. Et pour moi, là, voilà, je le répète, la clé du match se situe au milieu de terrain. Donc comme toi, voilà, on peut perdre, mais il faudra quand même dominer la rencontre de manière assez importante. Et je suis d'accord pour dire que Dijon a l'un des plus faibles effectifs de Ligue 1, comme nous d'ailleurs. Mais je pense qu'on est quand même un peu au-dessus sur certaines individualités.
Tout à fait. Après, là où je vois peut-être un peu plus large que toi, c'est le point de le milieu de terrain. En fait, ce que je veux dire, c'est globalement l'axe du terrain. Et la défense centrale, Ekwulamanga, Lotoa, il y a un truc qui frappe aux yeux, c'est un manque de mobilité et de vivacité. Et on a des joueurs qui ont les capacités de jouer sur leurs points faibles, au final. De bien les bouger, les balader, que ce soit devant, derrière ou au milieu. Donc vraiment, autant contre Marseille, Brest s'est surtout illustré sur son jeu sur les côtés, autant là, c'est dans l'axe que je nous attends.
Et justement, partons sur le principe que Steve Mounier est plutôt apte à démarrer, à jouer peut-être une heure face à Lotoa et Ekwulamanga. Est-ce que tu mets un mec un mec puissant, fort, qui pour jouer en pivot face et qui peut rivaliser physiquement avec ces deux colosses, hein, on peut le dire, c'est des mecs assez physiques. Ou alors tu mets un Cardona, peut-être un mec un peu plus vif, un peu plus dynamique, qui peut leur permettre d'exposer leur déficit au niveau de la vitesse. Qu'est-ce que tu ferais toi si tu étais entraîneur du Stade Brestois?
Je pense que si Steve Mounier démarre, c'est un peu mon souhait au final. J'attendrai pas forcément de lui qu'il marque, mais effectivement qu'il pèse énormément sur deux joueurs qui sont surtout physiques, mais qui n'ont pas de grandes capacités techniques, qui sont pas forcément très vifs, et du coup qui arrivent à déstabiliser et surtout à libérer l'espace pour d'autres joueurs. On pense notamment à Erling Cardona. Si Cardona rentre dans l'axe après un déséquilibre de Steve Mounier, normalement c'est cartouche, quoi. Donc plutôt Steve Mounier, mais pas dans la perspective de le voir marquer, plutôt pour son apport et son travail défensif ou offensif.
C'est l'un des avantages de... Alors nous voilà, comme on le disait tout à l'heure, pour nous c'est pas encore officialisé, ça devrait l'être d'ici jeudi quand vous écouterez ce podcast. Si ça ne l'est pas, c'est une mauvaise nouvelle, d'une pour le Stade Brestois et de deux pour ce podcast, parce qu'on passerait un peu pour des cons. Mais effectivement c'est l'un des avantages de l'arrivée de Steve Mounier, c'est que ça va permettre d'étendre les possibilités d'Olivier Dalloglio au niveau des options qu'il peut utiliser, parce que au niveau des profils disponibles pour lui dans son effectif, il y aura davantage de possibilités au niveau tactique de faire jouer des Cardona sur les côtés, de le faire jouer dans l'axe, même au niveau des changements. On a vu contre Marseille que c'était assez limité au niveau des qualités des entrées en jeu. Quand tu fais rentrer le Doiron à la 70e, voilà, c'est pas contre lui, hein. On sait qu'il a beaucoup de bonne volonté, mais il va pas changer le cours d'un match. Donc, dès qu'il est rentré, on a vu que techniquement le niveau de l'équipe a quand même baissé assez nettement. Donc, ça permettra également à Olivier Dalloglio de pouvoir discuter, de pouvoir rien que de l'évoquer. Davantage d'options, comme on a pu le faire là à l'instant en te demandant justement si tu allais mettre un mec plutôt physique ou un mec un peu plus vif et dynamique à la pointe de l'attaque. Donc voilà, c'est plutôt intéressant et ça permettra de pouvoir déstabiliser un peu plus facilement l'adversaire, alors que là, on a quand même un jeu assez stéréotypé au niveau de... Bah, généralement, ça va sur les côtés et ça centre pour des joueurs qui ne sont pas forcément dans la surface.
Justement, sur les centres, même si on ne change pas de manière de jouer, sur le coup, Mounier, c'est quelqu'un qui s'intégrera bien. Parce que Chloé nous en parlera plus en profondeur, mais Mounier, c'est un joueur de surface, très bon de la tête, qui va reprendre tous les centres, et c'est à peu près tout avec le ballon, mais c'est déjà ça.
Au moins, il y a une certaine cohérence, on en parlera un peu plus quand on fera le podcast, si jamais il arrive, on le rappelle. Il y a une certaine cohérence au niveau du mercato, au niveau des profils. Voilà, tu recrutes Franck Honora, qui est un très bon centreur, et tu recrutes Steve Mounier, qui est un bon joueur de tête et qui sera là pour reprendre les centres. Brest-Dijon, donc ce sera dimanche à 15h. Il n'y a pas besoin d'en rajouter beaucoup plus, hein. C'est déjà une présentation, notamment avec le Dijon Show, qui a été plutôt exhaustive. N'hésitez pas à aller voir l'interview qu'a pu donner Olivier Dalloglio à nos amis du Dijon Show. C'est sur leur site internet. Et nous, bah, on va vous souhaiter un bon match ce week-end. Hein. Yann, est-ce que tu vois... Je crois que tu étais plutôt optimiste, hein, sur ce match.
Oui, peut-être trop optimiste, mais je nous vois démarrer la saison, démarrer enfin notre saison, et tambour battant. C'est-à-dire que je nous vois gagner par 2, peut-être 3 buts d'écart.
Oula, là, si tu mets quelques euros dessus, il y a un truc à faire. Y a un truc, et tu pourras peut-être te payer un micro.
Mais après, comme je le dis, si on ne prend pas de points là, c'est pas dramatique. Par contre, on sera deux au mur pour la réception de Lorient.
C'est vrai que le podcast prochain et la transition à tout trouver, ce sera pour présenter le match contre Lorient, le gros derby que pas mal de monde attend. D'ici là, on va vous souhaiter une bonne semaine, un bon week-end, un bon match. Et on espère évidemment une victoire brestoise. La semaine prochaine, Fanch sera de retour. En tout cas, on lui souhaite. Ce sera une bonne nouvelle pour nous tous. Et Yann, bah, je te dis à la prochaine. Merci d'avoir passé cette demi-heure supplémentaire avec moi. Et, voilà. Sur le quai Guédon, devant le petit pont, chanter la chanson, le bras en bas de la croisière, et dans la planche baleinière, chambouer notre brigadier, son bol est caplé, un peu sur le côté. Me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans.